La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Europe 1 et vous êtes au bon endroit pour découvrir celles et ceux qui osent, se lancent, innovent et s'adaptent dans ce contexte inédit. C'est ça, la France bouge. À mes côtés en studio, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à tous. Allez, 1, 2, 3, flexion et on se relève aujourd'hui au programme de la France bouge. Comment les salles de sport se réinventent avec que le Covid, elle peine à renouveler les abonnements et ont bien du mal à faire venir de nouveaux venus. Alors, les grands réseaux se transforment, ils misent notamment sur le numérique avec des cours en ligne, mais pas seulement. On va voir tout cela d'ici à 14h avec Thomas Meunier, c'est l'un des patrons de Keep Cool, l'un des plus grands réseaux de salles de sport en France.
À la une, en effet, aujourd'hui, Emmanuel, se remettre au sport, mais aussi à la danse dans ce contexte délicat. Gros plan sur une saga française, Repetto, existe depuis 1947 et pour tout connaître de l'histoire des fameux chaussons de danse classique, rendez-vous à 13h30.
Et la France bouge, ce ne sont pas que des pointes, ce sont aussi des entrepreneurs qui tentent de vous convaincre qu'ils ont trouvé la pépite de demain. Ils ont chaque jour 1 minute 30 et pas une seconde de plus pour le faire. Aujourd'hui, c'est Meatwashing qui sera là, une solution pour laver les flottes de voitures d'entreprise. Rendez-vous aux alentours de 13h40.
Et depuis demain au travail, décryptage sur de nouvelles façons de travailler, gros plan sur une entreprise qui utilise le réseau social TikTok pour recruter. C'est très sérieux, vous en saurez plus vers 13h50.
C'est très sérieux, mais on s'amuse aussi. Bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Alors Elisabeth, petite question perso. La reprise du sport en cette rentrée, ça fait partie des bonnes résolutions ?
Ça fait partie de mes rêves.
Ça fait partie des rêves, donc ça veut dire que l'abonnement n'est pas repris. Et pourtant, septembre, c'est le temps fort pour les inscriptions. Mais là, à l'heure du Covid, les salles de sport doivent revoir leur modèle.
Bonjour Thomas Meunier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct, en studio, sur Europe 1. Vous êtes le directeur général adjoint de Keep Cool. Keep Cool, ça existe depuis 2002. 260 salles en France et outre-mer, 1000 salariés. C'est ce qui fait de vous un des leaders du secteur. La rentrée, on le sait, c'est le temps fort des inscriptions. Aujourd'hui, comment ça se passe ?
Alors ça se passe plutôt moyennement si on compare à l'année dernière. En fait, effectivement, on est déjà ravis de voir que les abonnés qui sont chez nous depuis le début de l'année reviennent en salle de sport. Ça, c'est très important. La fréquentation est à nouveau assez importante, de l'ordre de 80-90%. Par contre, on peine toujours à convaincre les nouvelles personnes qui souhaitent faire du sport à venir en salle de sport. Donc voilà où on en est actuellement. Ça fait 2 semaines que la campagne est lancée. Effectivement, comme vous dites, c'est toujours un temps fort, septembre, janvier. Les gens, après l'été ou après les fêtes, sont pleines de bonnes intentions. Mais là, force est de constater que pour l'instant, c'est un peu moribond.
Est-ce que la rentrée est aussi un petit peu décalée ? Parce que pour certains de vos abonnés, vous avez, j'imagine, prolongé les abonnements parce qu'ils n'ont pas pu venir pendant le confinement. Mmh. Et les nouveaux venus, c'est quoi ? C'est qu'ils ont tout simplement peur de se voir enfermés dans une salle de sport. C'est compliqué en ce moment de convaincre des gens qui n'y sont peut-être jamais venus que tout pourrait se passer correctement pour eux sur place.
Alors, il y a différents paramètres, effectivement. Il y a le fait que les gens, l'actualité est quand même quelque peu anxiogène. Donc faire venir des gens en salle de sport qui estiment qu'être dans un espace clos pour venir suer, finalement, ça peut être un peu compliqué. Néanmoins, on a mis en place beaucoup de choses qui les rassurent. Le fait que les coachs soient là pour portent des masques en permanence, que le port du masque soit aussi obligatoire quand on ne fait pas de sport, que les machines sont nettoyées très régulièrement par les coachs, qu'on a un renouvellement d'air très régulier aussi dans les salles.
Comment ça, c'est fait. Quand il n'y a pas de fenêtres, vous faites comment ?
La climatisation, à double flux, tout simplement. Et les fenêtres, effectivement, pour celles qui en sont équipées. Donc voilà, on fait aussi beaucoup de choses à l'extérieur, des cours extérieurs. Donc là, c'est limité à 10 personnes. On a beaucoup accéléré aussi avec le Covid la digitalisation du sport. Donc on met en place dans les prochains jours des cours live réguliers via Facebook. Une plateforme VOD qui viendra compléter le tout où les gens pourront faire du sport à la maison, après le boulot ou même pendant le boulot. Donc voilà comment on essaie de convaincre les gens de venir.
Est-ce que le protocole sanitaire vous complique ou vous empêche quasiment de faire correctement tourner une salle de sport aujourd'hui ? Parce qu'on l'entend, vous disiez, on désinfecte. Mais enfin bon, si chaque prof doit désinfecter après chaque passage, c'est quand même pas simple et à surveiller et à s'assurer que ce soit bien fait.
Exactement. Alors ça complique, ça n'empêche pas. On met à disposition des bidons de bactéricides à chaque personne qui vient s'entraîner. Donc, ce n'est pas les coachs forcément qui... Enfin, il y a un nettoyage des coachs, évidemment, mais chaque personne qui fait
c'est-à-dire
du sport...
C'est-à-dire des gels, vous voulez dire ?
Non, des gels, des bactéricides, c'est-à-dire des bidons où les gens peuvent asperger les points de contact sur les machines, notamment avant et après, comme ils le souhaitent. Les douches aussi sont nettoyées régulièrement. Tous les points de contact sont nettoyés régulièrement.
Et alors, ce protocole sanitaire qui vous complique un petit peu la vie, on peut le dire, est-ce que ça a conséquence, vous perdez beaucoup d'argent ou vous arrivez à compenser avec cette arrivée des cours en live, du digital et des plateformes en VOD ?
On perd de l'argent, certes. C'est vrai que le marché accuse une perte de 25% en termes de chiffre d'affaires depuis le début de l'année, le marché du fitness au global. C'est quand même 7 millions d'adhérents en France. Donc oui, le Covid n'aide pas. Et puis, les gens ne partent pas forcément. Parce que les adhérents qui viennent ont confiance dans les salles, aux coachs, ils les connaissent. On est comme des commerçants de proximité, finalement. Les gens viennent chez nous, ils connaissent tout le monde par leur prénom. Donc voilà, ce n'est pas forcément ceux qui sont actuellement abonnés, c'est ceux qui souhaitent venir s'installer, s'inscrire.
En raison de tous ces protocoles, est-ce qu'il va falloir que vous revoyez vos prix à la hausse? Puisque par exemple, nombreux du côté des pressings ont augmenté les prix en nous disant il y a une taxe Covid d'une certaine manière. Certains coiffeurs également ont augmenté les prix parce qu'il faut changer plus régulièrement les produits et ce genre de choses. Est-ce qu'on peut imaginer cela chez vous ou, en fonction du contexte que vous nous racontez, c'est bien évidemment impossible d'augmenter les prix en ce moment?
Alors pour l'instant, c'est impossible d'augmenter les prix. On est dans un marché hyper concurrentiel avec des gros acteurs qui viennent notamment d'Europe du Nord qui vampirisent un petit peu le marché français.
Donc, vous êtes pourtant l'un des plus gros réseaux de France, hein, avec 260 salles en métropole et en Outre-mer.
Ouais, mais la guerre des prix est toujours très présente, de toute façon.
Donc, ce que j'entends, on aurait bien aimé réussir à augmenter les prix, mais pour le moment, c'est impossible. Ça va si je le traduis comme ça, si je le résume ainsi?
Vous avez tout à fait raison, c'est très bien résumé.
Et pour ceux qui sont déjà, pour les fidèles, hein, j'ai envie de dire, vous baissez peut-être les prix, vous faites des tarifs avantageux?
Non, mais par contre, on propose, je parlais notamment de la vidéo on demand, un petit peu sur, comme une plateforme Netflix où vous allez choisir vos cours de sport. Pour les nouveaux adhérents, ce sera, on voudrait la vendre par un abonnement pour les nouveaux, mais par contre, pour ceux qui sont déjà adhérents chez Kikool, ce sera inclus. Mm-hmm. Et idem pour les lives, tout ça, ce sera inclus dans les abonnements.
Eh bien, on continue à parler de la façon dont les salles de sport se réinventent. Thomas Monnier, vous restez avec nous. Vous êtes le directeur général adjoint de Kikool.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Avec Elisabeth, hein, chaque jour, on est très heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1 entre 13h et 14h pour cette France bouge avec notre patron du jour, Thomas Meunier, qui est l'un des patrons de Kikool, l'un des plus gros réseaux de salles de sport en France. Thomas Meunier, j'imagine que vous ne faites pas trop appel à des gens hors de vos cercles et de votre entreprise, mais vous faites également appel à des coachs personnels pour des séances à l'extérieur, des gens qui n'étaient pas obligatoirement avec vous avant le Covid?
Alors non, on ne fait pas appel à des coachs qui ne sont pas salariés Kikool pour le moment en tout cas. Par contre, tous ceux qui sont, je vous le disais tout à l'heure, on fait des lives sur Facebook notamment. Ça, c'est des coachs qu'on embauche à l'extérieur puisqu'il faut quand même une certaine expertise pour animer un cours et qui plus est quand on est en face à une caméra. Donc oui, on a trois coachs extérieurs, mais autrement, ils sont tous salariés.
Pour le moment, en tout cas, c'est ce que fait TrainMe. Bonjour Gastien Le Tartre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le cofondateur et le CEO de TrainMe, ça existe depuis 2015. Et grâce à vous, on peut réserver un coach particulier.
Exactement, grâce à une application, pour être exact, vous avez accès à plus de 1300 coachs dans 25 activités, dont le fitness, la remise en forme, yoga, pilates, boxe, tous diplômés et sélectionnés par nos équipes. Et vous les réservez quand vous le voulez, en toute sécurité et où vous voulez.
Alors comment ça se passe? Par exemple, j'ai envie, là en rentrant ce soir, d'essayer une première fois avec TrainMe. Je suis géolocalisée grâce à votre application?
Exactement, vous êtes géolocalisée, vous choisissez votre activité, le créneau disponible et vous réservez le coach en toute simplicité. Et le coach, vous avez le choix soit de faire en extérieur, soit à votre domicile, soit en visio live qu'on a développé depuis le confinement.
Et du coup, c'est aujourd'hui quelque chose de très important dans votre développement. Vous avez l'impression que grâce au confinement, on a passé une étape pour réussir à accepter ce genre de cours où jusque-là, on pouvait dire que c'était un petit peu anecdotique ou c'était plus compliqué parce qu'on n'avait pas le rapport avec un spécialiste.
Bah exactement. Les gens, déjà, il y avait une tendance globale de vouloir de la personnalisation dans l'activité sportive et le confinement a accéléré ça. que ce soit en présentiel et aussi en visio live. Les gens ont besoin d'être accompagnés et sont rassurés par cette prestation de qualité et qui permet aussi d'augmenter la motivation et donc de faire plus de sport, ce qui est l'objectif initial.
Donc le visio live, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, j'imagine aussi en extérieur, non ?
Exactement. Surtout en cette rentrée où le temps est clément, sur toute la France, on a beaucoup de cours en extérieur parce que les gens ont besoin de sortir, notamment depuis le confinement. Ils veulent faire de l'activité. Donc l'activité reprend.
Bien
personnalisé, mais plus en extérieur qu'à l'intérieur.
Et
que
alors en extérieur, on fait quoi ?
Ce qui cartonne en ce moment, c'est le cross-training.
C'est-à-dire,
vous avez des circuits d'activité où vous faites un peu de burpees, un peu de pompe, un peu d'abdos. Et ça fonctionne très bien parce qu'il y a un côté gamification, un peu de jeu. Et aussi un peu d'atteinte de performance. Les gens ont envie de se dépasser et le coach va les accompagner là-dedans.
Alors toute l'équipe de la France Bouge, quand on a préparé cette interview, nous a dit il faut lui demander en entreprise, parce que vous travaillez avec les entreprises, est-ce que là vous avez aussi une évolution de la demande, parce que des salariés qui auraient pu aller jusque-là à la salle, c'est plus simple, on reste sur le lieu de travail, on n'en sort pas et on fait notre sport ici.
Alors sur l'entreprise, déjà il y a vraiment un élan des gens qui veulent faire des collaborateurs, qui font du sport entre collègues. C'est devenu quasi plus logique en France. Et depuis le confinement, on fait aussi des cours en télétravail, en visio live, où les gens, depuis le télétravail, se retrouvent entre collègues autour d'un cours de sport animé par un professionnel de sport. Et ça permet de créer du lien et garder du lien entre les collaborateurs quand ils sont en télétravail. Et bien sûr, on fait aussi du présentiel dans les locaux de l'entreprise.
Mais il y a eu un déclic entre avant et après le confinement, c'est-à-dire que toutes ces solutions-là dont vous nous parlez, qui nous font toutes très, très envie, est-ce qu'avant le mois de mars, ça marchait aussi, votre activité reposait là-dessus ?
Oui, l'activité fonctionnait très bien. Il y avait vraiment déjà un élan de pratiques sportives accompagnées et personnalisées, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Le Covid a accéléré, notamment ce qu'on appelle vulgairement le fitness at home, donc le sport à domicile qui s'est vraiment développé.
On l'a tous vu à travers des réseaux sociaux.
Voilà, exactement. Et en fait, ça se traduit par différentes pratiques. Et la place du coach est hyper importante parce que le coach va permettre de motiver, de le faire en sécurité et d'atteindre plus rapidement ses objectifs. Et ce qui est très important.
Thomas Meunier nous disait tout à l'heure que ce qui est important dans cette période des salles de sport, c'est généralement la rentrée de septembre, mois de janvier également, après avoir trop consommé pendant les fêtes. C'est également une temporalité importante pour vous. Là, vous voyez qu'après la rentrée, tout le monde essaye de se dire « Bon, allez, j'ai un peu exagéré pendant les vacances, il faut que je m'y remette, je vais peut-être moins aller en salle de sport et du coup, je vais passer par là. » Vous entendez ça ?
Oui, on a exactement les mêmes temporalités que le monde des salles de sport. Donc, ça veut dire septembre, janvier et avant l'été pour le body fitness. Et là, effectivement, on a battu notre record de réservation avec plus de 200 réservations. Donc oui, on sent un élan chaque mois de septembre et d'autant plus là avec le contexte sanitaire.
Vous les choisissez comment, vos coachs ? Vous aviez dit tout à l'heure qu'ils étaient diplômés, c'est très bien, mais est-ce que vous choisissez aussi des personnalités qui font aussi votre marque de fabrique ?
Exactement. On cherche. Alors en France, il faut savoir qu'il faut être diplômé pour pouvoir dispenser un cours, donc ils sont tous diplômés, une carte professionnelle, et on va surtout noter leur motivation. Pourquoi ils veulent rentrer chez Trainmi ? Parce qu'ils veulent découvrir un outil, ils veulent découvrir des nouveaux clients et aussi être dans l'accompagnement. Et nous, quand on les valide sur la plateforme, on va les accompagner tout le long de l'histoire en les formant, en leur donnant des conseils, en leur aidant et grâce à notre outil digital.
Il y a des retours sur ces coachs ?
Oui, bien sûr.
C'est aussi un peu collaboratif,
exactement,
il y a des notes ?
On a plus de 10 000 avis et ce qui permet de trouver chaussure à son pied sur la plateforme.
Thomas Meunier, pour vous, c'est un concurrent, Trainmi, ou c'est totalement complémentaire à l'offre que vous pouvez proposer ?
Alors, je l'expliquais tout à l'heure, je pense qu'il y a une vraie synergie à avoir entre les cours en salle et les cours dispensés à l'extérieur et notamment dans les bureaux. Non, ce n'est pas un concurrent pour nous. Je pense qu'on peut être amené à travailler ensemble. Et les gens qui commencent à faire du sport aussi à la maison, ils peuvent aussi peut-être après venir sur les machines, qui fait peut-être un petit peu plus peur au départ pour les non-sportifs. Donc non, je pense qu'il y a une vraie complémentarité.
Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça pourrait être l'avenir du sport et que finalement, on n'a pas besoin de la salle de sport, ou beaucoup moins besoin de la salle de sport comme les vôtres, les salles de sport traditionnelles ?
Ben, je ne pense pas qu'on ait plus besoin de salle de sport parce que les machines font quand même énormément d'effets sur le corps humain. Et sans machine, on peut se muscler au poids du corps avec des élastiques, etc. à la maison, mais rien ne remplacera le poids des machines, de faire du squat, de travailler les pectoraux, des choses comme ça. Donc non, je pense que c'est très complémentaire, mais on passe un cap. On est non sportif, on devient un petit peu sportif, et de plus en plus, au fur et à mesure, on peut aller s'inscrire en salle de sport éventuellement.
Est-ce que malgré tout, cette évolution, ces cours à domicile, vont vous faire repenser votre développement en France ? On le disait avec Elisabeth, vous avez 260 salles en métropole et en Outre-mer, vous êtes l'un des plus grands noms du secteur, en tout cas l'un des mieux répartis sur tout le territoire. Est-ce que vous pourriez vous dire bah non, bah, on devait en ouvrir 30 et ben on va en ouvrir que 10.
Alors ça a évidemment un petit peu freiné nos ambitions, puisqu'on doit aussi agir en tant que bon père de famille. On est des entrepreneurs avant tout, hein, sur des capitaux familiaux. On va ouvrir une dizaine de salles d'ici la fin de l'année. On aurait pu en ouvrir beaucoup plus.
Quand vous dites on aurait pu, on voulait en ouvrir plus, on voulait en ouvrir moins.
Voilà, exactement. On a quand même un petit peu revu à la baisse nos ambitions. Mais il faut quand même qu'on avance malgré tout. Donc on va en ouvrir.
En tout cas, merci Gatien Le Tartre pour nous avoir parlé de Train.me. Hein. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le CEO donc de ces coachs que l'on peut réserver via votre plateforme.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on est toujours avec Thomas Monnier, le directeur général adjoint de Keep Cool, l'un des principaux réseaux de salles de sport en France, hein, 260 salles de sport en métropole et en Outre-mer. Depuis 13 heures, on voit avec vous, hein, comment vous êtes en train de vous réinventer. Vous disiez que vous alliez ouvrir moins de salles de sport que ce qui était prévu. J'imagine que vous êtes parfois locataire des locaux dans lesquels vous vous trouvez. Est-ce que vos bailleurs, ils ont été sympas? Ils vous ont dit, allez, vous payez pas les loyers pendant que vous n'avez pas ouvert?
J'aurais bien aimé que ce soit aussi simple que ça. Malheureusement et heureusement, en fait, puisqu'il y en a quand même qui jouent le jeu, évidemment, hein, mais c'est de la négociation au cas par cas.
Et vous avez pourtant été soutenu par des mesures, hein, d'accompagnement, par les fameux garanties par l'État. Est-ce que ça, vous vous êtes senti réellement accompagné et soutenu? Est-ce que vous allez pouvoir survivre à tout ça?
Alors effectivement, il y a des protocoles et des procédures comme le chômage partiel, évidemment, qui nous a bien permis de passer une partie de la vague. Le PGE, c'est toujours en négociation. Il faut savoir que les entreprises françaises n'ont pas toutes eu un PGE.
Mmh. Alors, faut quand même être là et être très honnête pour une mesure qui, une fois, est décidée par l'État, ça a très bien fonctionné. Refus est extrêmement limité, principalement parce que, pour une fois, là aussi, soulignons-le, les banques ont quand même à peu près joué le jeu.
Exactement.
Mais vous, par exemple, vous avez des difficultés à avoir le vote?
Pour l'instant, c'est pas encore gagné, effectivement.
Ouais, qu'est-ce qui bloque?
Je sais pas, il faut qu'on négocie, il faut qu'on discute longuement avec les banques. Sur les entreprises de notre taille, c'est vrai que c'est pas la même chose que d'aider les indépendants aussi. Donc tout ça, c'est encore des négociations. Ouais.
Mais typiquement, sur les loyers, si on revient là-dessus, vous, ouais, aujourd'hui, vous en êtes où dans vos négociations? Puisque là, le gouvernement avait dit, c'est à chacun de se débrouiller avec son bailleur. Vous en avez quoi? La moitié qui vous ont dit... Parce qu'il faut avoir l'idée que quand on ferme, c'est la plus grosse charge qui vous reste à payer. C'est gigantesque.
Exactement.
Pour des propriétaires comme vous.
Alors, dans la négociation, il y a plusieurs choses. C'est soit le bailleur accepte d'annuler le loyer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui arrive dans 20-30% des cas. Et il y a ceux qui repoussent le loyer en disant, voilà, vous n'allez pas payer entre mars et avril, enfin le temps de fermeture. Et par contre, c'est des charges que nous paierons de toute façon un jour ou l'autre après.
Comme un prêt,
finalement. Donc c'est deux choses différentes. Et voilà, donc je dirais que 70% des bailleurs ont quand même joué le jeu. C'était une période exceptionnelle pour tout le monde. Donc non, ça va.
C'est... Et dans ce genre de moment, quand on cherche justement un prêt de la part de l'État, est-ce que vous dites aussi, il va falloir peut-être qu'on ouvre notre capital parce qu'il va falloir qu'on se renforce au-delà du prêt, parce qu'un prêt c'est bien gentil, mais par définition faut le rembourser. Vous disiez que vous étiez sur des capitaux familiaux, c'est pas extensible par définition. Donc pour vous aider à continuer d'accélérer, de continuer d'investir, parce que si vous arrêtez de faire tout ça, c'est fini si vous achetez pas de nouvelles machines par exemple.
Oui, bien sûr, c'est des discussions qu'il faut qu'on ait régulièrement et il faut qu'on se pose la question. Mais pour l'instant, non, c'est pas à l'ordre du jour, pas d'ouverture de capital pour le moment.
Est-ce... Alors, que vous connaissez Repetto?
Bien sûr.
Bien sûr. Eh ben, on va passer à cette passion et à cette saga maintenant d'entreprise avec vous, Elisabeth.
Eh oui, avec vous, Jean-Marc Gaucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Repetto. Oui. Repetto, ça parle à tout le monde, hein, quand on a préparé l'émission.
Oh, chacun, il y a sa petite anecdote. Est-ce que j'ai le droit de dire que vous êtes fan de danse?
Ah, mais j'adore ça, j'adore. Repetto, tout démarre en 1947, Jean-Marc Gaucher. Ça démarre avec, grâce aux parents du grand danseur et du chorégraphe Roland Petit. Ils se séparent et Roland Petit accueille sa maman chez lui. Sa maman s'appelle Rose Repetto. Que se passe-t-il?
Et pour s'occuper, parce qu'elle était bien seule, sans activité, pour s'occuper, elle a fait des chaussons de danse pour son fils. Et son fils voyait que sa maman prenait beaucoup de plaisir à faire ça, et il a fait venir ses copains. Et il s'est trouvé que ses copains d'époque, c'était tous les plus grands danseurs du monde qui sont passés chez Repetto, et la marque a eu une audience et une image mondiale quasiment dès le départ. Donc cette dame qui était bistrotière à Paris juste avant... s'est retrouvée à la tête de... Et c'était une des premières à écrire son nom sur les produits.
Donc elle a fait de son nom une marque.
Elle est devenue... Eh ben c'était les premières. Avant, les produits ne faisaient pas tout à fait ça. Ils fabriquaient de beaux produits et ça suffisait. Et elle a mis son nom et c'est devenu une marque mondiale. Donc elle a connu à grand succès durant le cours
de sa vie. Très rapidement.
Mais au-delà de mettre son nom, au-delà du fait d'être passionné par son fils, qu'est-ce que ces chaussons avaient de si particulier? Puisque Béjart, Nureyev, tous ont dansé avec ces chaussons. Donc j'imagine qu'ils avaient dès le démarrage quelque chose de techniquement supérieur aux autres.
Alors je pense que dès le démarrage, c'était les amis de Roland Petit. Donc c'était pour faire plaisir à la maman des amis de Roland Petit. Madame Repetto était quelqu'un... Si un jeune danseur venait, il n'avait pas d'argent, elle lui disait « c'est pas grave, tu paieras quand tu seras célèbre ». Donc il y a peut-être quelques-uns qui sont devenus célèbres, pour beaucoup, et ils n'ont jamais été célèbres. Mais c'était la mama de l'industrie de la danse, c'était son rôle. Par la suite, Repetto a fabriqué des chaussons sur mesure pour les danseurs, et aujourd'hui encore, il n'y a que 3 marques dans le monde qui fabriquent des chaussures sur mesure, et nous sommes une des 3 marques.
Alors l'entreprise a connu, a traversé des épreuves, hein. Elle a été entre les mains des Américains, puis en 1987, elle a été reprise par la Caisse Centrale des Banques Populaires, hein, en 88. Vous avez repris, Jean-Marc Gaucher, l'entreprise en 1999, alors que tout allait très mal. Qu'est-ce qui vous a pris qu'est-ce qui vous a motivé pour récupérer et racheter Repetto?
J'aimais la logique des marques. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et avant Repetto, j'étais distributeur de la marque Reebok en France. Donc on était la première marque à s'occuper du marché de loisirs actifs pour les femmes à travers l'aérobic. À l'époque, toutes les marques de sport, c'était des chaussures pour les hommes. Nous, on était les premiers à faire des produits pour les femmes. Et comme c'était destiné aux femmes, je regardais les marques qui existaient autour et j'ai découvert Repetto comme ça. Ensuite, la marque allait mal, la société allait très mal. Mais c'est quand tout va mal que ça ne coûte pas très cher, donc j'ai pu le racheter.
Vous avez encore aujourd'hui une usine en Dordogne, je crois que vous produisez 400 000 paires là-bas. Qu'est-ce qu'il a encore du chausson d'origine, le chausson que vous produisez là-bas, en Dordogne?
Heureusement, depuis l'origine, il y a plein de choses qui ont évolué. Les matériaux utilisés ne sont plus tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, on fabrique des chaussons qui sont réglés au millimètre pour être danseuse professionnelle. Donc ça a beaucoup, beaucoup changé. Mais on a gardé, on est la seule marque en France à faire du chausson sur mesure. Nous sommes 2 en Europe, nous sommes 1 des 2 à le faire, 3 dans le monde. Et personne d'autre ne peut attaquer ce marché-là.
Vous faites du chausson sur mesure, vous êtes aussi diversifié, parce qu'on peut trouver aussi dans les enseignes Repetto autre chose que les chaussons sur mesure. On peut trouver des chaussures de ville aussi. Des escarpins, des chaussures pour hommes.
Alors on a eu la chance qu'un jour une jeune danseuse soit allée voir Madame Repetto. Elle lui a demandé une paire de ballerines très échancrées. Elle voulait qu'on voie la naissance de ses orteils. Et cette jeune fille, c'était Brigitte Bardot, elle avait 17 ans à l'époque. Donc tout le monde connaît ces ballerines qui ont été créées pour Brigitte Bardot. Et ensuite, il y a eu une deuxième chance qui s'est présentée à Repetto. C'était que Serge Gainsbourg avait vraiment très très mal aux pieds. Birkin a trouvé une paire de Repetto.
Les blanches.
Et ce jour-là, Gainsbourg n'a porté que ça jusqu'à la fin de sa vie.
Aujourd'hui, que reste-t-il en 2020 de Rose Repetto?
Sa marque.
Sa marque, son nom.
Sa marque, le positionnement de la marque, tout le travail qui a été fait avec l'univers de la danse. On se promène dans le monde entier. Si l'on parle de Repetto, Repetto est connu par tous les danseurs de la planète.
On l'a entendu, hein. Il faut de la chance aussi. Hein.
Et ça, justement, quand vous avez racheté l'entreprise, vous le disiez, c'était facile, elle ne valait pas cher parce que tout était tombé d'une certaine manière. Parfois, on n'arrive pas à relancer des marques mythiques. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette marque pour réussir à la relancer? Parce que c'est bien gentil d'avoir fait un diagnostic en disant « Allez, j'investis pas trop d'argent parce que dans tous les cas, ça vaut rien ». Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça revaut quelque chose?
La première chose de toutes, peut-être si demain je recommence ce type d'opération, je vais me planter. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un secret.
Osé.
Oui, mais ce n'est pas très grave si ça ne fonctionne pas, ça arrive. Ce n'était pas le cas dans la tête des entrepreneurs il y a 20 ans. Aujourd'hui, il faut accepter l'échec. C'est juste un moyen d'apprendre des choses nouvelles. On part dans des nouvelles directions. Ensuite, ce que j'ai fait, la première chose avant de venir chez Repetto, j'écris en 3 lignes ce que je voulais faire avec la marque Repetto.
C'était quoi ces 3 lignes?
C'était « Nous serons une marque mondiale qui développe les produits les plus techniques de l'industrie de la danse, les produits exclusifs les plus techniques de l'industrie de la danse. Nous serons une marque de l'univers du luxe. »
Vous avez réuni les trois.
Et au bout de 7 ans, le petit changement qui a lieu, plutôt que de marquer « Nous serons une marque mondiale », on a transformé ça, on a marqué « Nous sommes une marque mondiale ». Parce qu'on vendait sur la planète entière. Mais ces trois lignes existent toujours aujourd'hui.
Une toute petite question d'actualité autour du Covid. Aujourd'hui, quel est l'impact? Les cours de danse viennent de reprendre pour la plupart, après avoir été aussi stoppés. Est-ce que du coup, dans vos magasins, l'activité reprend? Parce que notamment les enfants ont sauté une taille et tout. Hop, il faut reprendre le nouveau chausson.
Non, la période est très compliquée partout.
C'est compliqué, mais ça redémarre un petit peu quand même.
Oui, ça redémarre, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 15 jours. On est dans le studio, on n'a pas de masque là.
Non, mais nous avons des plexiglas et nous désinfectons toutes les bonnettes à chacune de nos émissions.
Mais le risque existe autant que dehors, autant que partout. Donc, il y a des parents qui renvoient les enfants, il y a des écoles qui rouvrent, qui essayent de faire tout ce qu'il faut faire pour protéger les enfants. Mais il y a des parents qui sont quand même inquiets.
Comme tout le monde. Mais on continue à vivre. Hein, et...
Thomas Meunier, ça vous inspire quoi quand vous entendez la saga Repetto?
Moi, je suis complètement admiratif de personnes qui entreprennent, qui reprennent des entreprises, qu'elles soient en difficulté ou pas d'ailleurs. Et moi, j'ai connu Repetto via Serge Gainsbourg, évidemment, qu'on voyait toujours avec ces chaussures-là. Donc non, je suis particulièrement admiratif.
Et bon, merci beaucoup.
En tout cas, merci à vous Jean-Marc Gaucher, PDG de la marque Repetto. C'est la saga du jour dans La France Bouge.
Et une bien belle saga qui vient clôturer un autre dossier du jour sur les salles de sport qui se réinventent le temps de la crise sanitaire avec également ces chaussons de danse magnifiques.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est un moment toujours très important de cette France Bouge, les trophées Europe 1. Ils osent et on les écoute chaque jour dans cette France Bouge. Et aujourd'hui, le pitch porte sur le nettoyage de voitures, mais de voitures d'entreprise. Ça s'appelle Meat Washing.
Et bonjour Vianney de Villaret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 28 ans, je tiens à le préciser, parce que quand on se lance comme ça dans une entreprise, dans l'entrepreneuriat, c'est important de préciser aussi ça. Vous êtes le cofondateur de Meat Washing. L'entreprise est basée à Tours, c'est ça?
Exactement.
Elle existe depuis déjà 2018. Vous allez tout nous expliquer. Il s'agit c'est pour laver les voitures d'entreprise.
Il s'agit de faire du lavage sans eau pour les entreprises.
Eh bien, c'est parti. Vous avez 1 minute 30.
Alors, entre 150 et 300 litres d'eau, c'est le nombre de litres d'eau qui est utilisé pour le lavage de chaque voiture, de chaque véhicule aujourd'hui en 2020. On s'est posé une question simple, c'est comment faire pour être aujourd'hui une entreprise plus verte, plus responsable quand on gère des milliers de véhicules. Alors on a voulu justement créer Meat Washing pour rendre le lavage sans eau plus accessible et plus facile pour les flottes d'entreprises. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le lavage sans eau? En fait, il s'agit simplement d'une solution écologique qu'on va pulvériser sur l'ensemble du véhicule et qu'on va frotter avec un bon coup de main et une microfibre en coton réutilisable. Alors, pas besoin d'électricité, pas besoin d'eau, on peut intervenir partout. Alors justement, pour passer le pas et simplifier la vie des gestionnaires de flotte et des loueurs dans toute la France, on a développé une solution digitale qui permet de piloter et réserver en 2 clics simplement les lavages de son parc automobile. On prend également des photos du véhicule pour connaître un peu l'état du parc au fur et à mesure. C'est un outil d'aide pour le gestionnaire. Donc maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'on a commencé notre aventure. On a franchi le cap des 100 entreprises qui nous font confiance à Meat Washing. Et notre prochaine étape, on va essayer de développer encore plus notre service conciergerie pour laver les véhicules des salariés d'Europe 1 par exemple, en bas du bureau. Et pourquoi pas intégrer des cartes de service automobile pour convertir plus de monde à un lavage écologique. Donc c'est comme ça qu'on réussit aujourd'hui, dès aujourd'hui, avec les entreprises, à avoir un réel impact sur l'écologie.
Et bah, c'était très bien, la minute 30 est terminée. Bravo pour votre pitch, ça s'est bien passé.
Oui, c'est toujours un exercice impressionnant.
C'est un exercice.
Mais c'est à convertir du monde comme ça.
Et bien c'est comme ça qu'on le fait, en tout cas dans les trophées Europe 1. Je me tourne vers vous, Thomas Meunier, directeur général adjoint de Keep Cool. Vous êtes notre grand patron du jour. Première réaction, première question à Vianney de Villaret pour Meat Washing.
Déjà, bravo pour l'exercice, parce que c'est jamais simple de faire un pitch en 1 minute 30. Mais non, je trouve ça très bien, je trouve ça remarquable. Surtout dans les temps qui courent, c'est vrai qu'on sensibilise beaucoup à l'écologie, à l'environnement, on pense à nos enfants. Donc non, je pense que c'est une solution qui a beaucoup d'avenir. Donc je vous souhaite
Donc bon positionnement pour
exactement,
vous.
Exactement, pour moi c'est...
Mais typiquement c'est j'imagine bien. Que vous avez quelques voitures d'entreprise.
Alors justement, c'était la
ça
deuxième question.
Vous
voilà. Est-ce que vous vous déplacez à Aix-en-Provence notamment?
On se déplace et on intervient déjà à Aix-en-Provence. En fait, on a la chance de travailler avec de nombreuses entreprises déjà qui nous ont fait confiance dès le début. On a Metro, on a DHL, Socotec et plein d'autres entreprises qui nous ont fait confiance assez rapidement, qui nous ont proposé de laver leur flotte de véhicules. Donc on intervient à Aix-en-Provence, à Strasbourg, à Marseille, à Lyon. Et en ce moment même, vous avez plein d'équipes partout qui interviennent.
Moi, j'avais une question à vous poser. Quand vous dites pas d'eau, ça j'ai compris le concept, mais il y a quoi du coup dedans? Je crois qu'il y a, des agrumes, il y a des choses comme
oui,
ça. Ça
exactement.
De quoi est constitué le produit? Parce que
exactement.
C'est bien gentil de nous dire qu'il n'y a pas d'eau, mais il faut vraiment que ce soit vraiment écologique.
Oui, ce sont des produits écologiques. Nous, on se fournit auprès d'une entreprise qui est lyonnaise. Ce sont des produits qui sont des mélanges de produits végétaux et d'agrumes qui ont cette particularité de venir se déposer donc, sur la surface du véhicule et d'encapsuler la saleté. Mmh. Ensuite, c'est avec des chiffons en microfibres en coton qui sont réutilisables une bonne cinquantaine de fois, qui permettent de nettoyer, d'enlever toute cette saleté.
Donc vous avez beaucoup de personnel parce qu'il faut de la main d'œuvre pour nettoyer.
Exactement,
tout ça.
On a tout un réseau de partenaires partout en France qu'on va qualifier, sélectionner pour permettre de faire ce bon lavage écologique.
Et un autre point qui, je pense, va là faire peur à beaucoup, c'est le prix. Puisque à cause de ces personnels, à cause sûrement des produits que vous utilisez, vous n'avez pas abordé ce point. C'est cher quand même, parce que j'ai lu, vous allez me dire si je me trompe, intérieur-extérieur 55 euros en une heure et 20 à 30 minutes, 30 à 35 euros par véhicule. Alors, c'est quand même extrêmement coûteux quand on est chef d'entreprise pour nettoyer sa flotte de voitures, que d'habitude on nettoie tout seul avec son jet d'eau dans sa cour d'entreprise.
Ah oui, mais quand vous avez 100, 200, 300 voitures, je veux vous voir en train de laver les 200 voitures à coups de jet d'eau. Non, le gros avantage, c'est effectivement, il y a un impact écologique et aussi ça rend service aux entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de déplacer les véhicules. Tout se fait sur place. Donc là, il y a aussi un très gros gain en termes d'équipe à déplacer. On n'a pas besoin de mobiliser un salarié pour faire les allers-retours jusqu'à la plus proche station essence. Donc c'est vraiment l'avantage aussi. Et c'est là où on s'y retrouve en gain finalement. C'est à peu près la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui nous font confiance déjà aujourd'hui, qui font appel à Meatwashing, c'est pour ça.
Et peut-être bientôt chez les particuliers, je crois que ça fait partie de vos projets.
Exactement, on commence à s'y diriger vers les salariés d'entreprise et on espère pouvoir bientôt proposer ce service
directement aux particuliers. Exactement. Ça s'appelle Meatwashing. Merci à vous Vianney de Villaret d'être venu nous présenter votre entreprise.
Et si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie de le tester en direct sur Europe 1 devant un grand patron ou une grande patronne, eh bien c'est très simple, il suffit de nous écrire sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
C'est donc déjà la dernière partie de votre émission avec Ma vie au travail, hein, ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons depuis la rentrée. Nous sommes toujours avec notre grand patron du jour, Thomas Monnier, le directeur général adjoint des salles de sport Keep Cool. Alors maintenant, si on se mettait à recruter sur TikTok, vous connaissez déjà TikTok, Thomas Monnier?
Évidemment.
Vous l'utilisez?
Je l'ai sur mon téléphone, je regarde, mais je ne l'utilise pas.
Bon, on va voir si ça peut servir à recruter.
En tout cas, c'est ce que vous faites. Bonjour Candice Go.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel.
Vous êtes l'une des responsables du digital au sein du groupe Synergie. Synergie, c'est un groupe français de recrutement en intérim. Et vous êtes sans cesse en train d'essayer de trouver des nouvelles façons de recruter, d'attirer des nouveaux candidats. Et vous êtes tourné vers le réseau social TikTok. Moi, je pensais que c'était un réseau social pour les ados. Donc, pourquoi vous avez pensé à TikTok et comment vous y prenez ?
Alors, on s'est tourné vers TikTok, évidemment, puisque c'est une application qui nous a interpellés, puisqu'elle connaît un essor fulgurant et elle a une très large audience. Ça représente aujourd'hui 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont 6,5 en France. Voilà, avec une grosse part de jeunes actifs, évidemment, mais pas que. Donc, nous nous sommes dit que pour compléter notre communication sur les autres réseaux sociaux, TikTok pourrait être une bonne idée.
Vous avez lancé juste après le confinement votre campagne de recrutement justement sur ce réseau social, effectivement comme le disait très bien Elisabeth, plutôt pour les jeunes. Vous avez essayé de chercher des alternants, donc plutôt semble-t-il de jeunes profils. Est-ce que ça a marché du coup cette campagne de recrutement?
Oui, on est plutôt très satisfait en fait des premiers résultats puisque suite à cette communication et effectivement cette campagne d'alternance, on a réussi à placer des gens, notamment en interne. on a trouvé des alternants, mais pas que, puisque on a aussi pu trouver des intérimaires qu'on a placés d'ailleurs tout récemment sur des postes de préparateurs de commandes. On travaille sur toutes les typologies de contrats, donc on vise tout le monde.
Alors, est-ce que cette méthode de recrutement, de recruter via un réseau social type TikTok, est-ce que ça peut s'inscrire dans la durée au sein de votre entreprise ?
Oui, tout à fait, c'est l'idée. Là, on l'a lancé plus rapidement avec le confinement, mais c'était déjà inscrit dans notre stratégie. On a d'ailleurs lancé un groupe d'ambassadeurs avec nos collaborateurs qui sont les plus actifs sur le réseau aujourd'hui, qui vont être amenés à partager leur expérience, à aider les personnes qui le souhaitent à créer leurs vidéos. Et ça plaît de plus en plus. On a de plus en plus de volontaires, puisque c'est une initiative évidemment volontaire. On ne force personne, vous imaginez bien. Et l'idée, si ça fonctionne en France, c'est de le déployer après, pourquoi pas, dans nos filiales étrangères.
Donc ça, c'est à suivre pour le développement. Thomas Monnier, patron de Keep Cool, hein, les salles de sport. Vous, c'est des choses que vous regardez aussi pour recruter différemment les profils, parce que vous aussi, vous avez pas mal de jeunes, j'imagine, à recruter et à leur donner envie de venir chez vous.
Des jeunes coachs ?
Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs volets. On utilise des réseaux sociaux comme Instagram, déjà pour animer et pour montrer un petit peu ce qu'on fait en salle. Les lives dont je parlais tout à l'heure aussi. Et TikTok, on explique à juste titre que c'est en train d'exploser. Donc oui, on a créé un compte TikTok Keep Cool et on l'anime, effectivement. Ah oui. Alors que ce soit même pour recruter des nouveaux abonnés, juste aussi susciter la curiosité des jeunes. Et il y a de plus en plus de trentenaires et de quarantenaires qui viennent aussi sur TikTok. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est un
ce sera peut-être une méthode
un
de
bon
recrutement.
Hein.
C'est vraiment demain au travail. Hein.
Ouais, des fois, on sent un peu dépassé quand même.
Oui, mais bon, on vous découvre. En tout cas, merci à vous, hein, Candice Go. Vous êtes l'une des responsables du digital au sein du groupe Synergie. Vous venez de nous dire donc, que vous utilisez TikTok pour recruter. C'est une façon comme une autre. Merci à vous. Merci Thomas Monnier d'être venu nous parler de Keep Cool pendant toute cette émission. C'est la fin de votre émission. Emmanuel, on se retrouve demain à 13h pour une nouvelle France Bourge. On parlera de quoi demain ?
Eh bien, on va parler d'une exception. Une fac française est très bien classée dans le classement de Shanghai. Ça s'appelle Paris-Saclay. Comment c'est possible que pour une fois on y arrive ? Eh bien, sa patronne va venir tout nous expliquer demain. Très très bon après-midi à l'écoute d'Europe 1.
À demain et dans un instant, juste après le journal de Christophe Lamarre, vous allez retrouver Christophe Ondelat.